Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Marion! Ouais!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello les légendes et bienvenue pour ce 44e épisode. Changement de programme de dernière minute cette semaine. On comptait vous proposer Marc Jiquel pour une suite logique du dernier épisode avec Greg Barrère, puisque Marco entraîne le joueur français, mais suite à la prestigieuse victoire de l'Espagnol Pablo Andújar face à sa majesté Roger Federer sur la terre battue de Genève, on a décidé de décaler d'une journée et de vous proposer l'épisode qu'on a tourné lors du premier confinement avec l'Espagnol. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a hélas perdu la première partie de notre échange, mais pas d'inquiétude. Vous allez vous régaler avec cette seconde partie en compagnie d'un joueur humain, franc et généreux dans ses échanges. Pablo nous explique comment, grâce à la visualisation, il s'est détaché de sa grave blessure au coude et de son appréhension à envoyer la gouache au service. On aborde une fois de plus l'aspect mental autour du tennis. On parle aussi fiesta, il nous relate ses défaites douloureuses en Coupe Davis, aborde le volet financier sans tabou, l'évolution du format de jeu, son alimentation, avant de conclure avec les traditionnelles questions de fin. Pablo est une crème et je tiens à le remercier sincèrement d'avoir joué le jeu en français. J'enchaîne avec ma traditionnelle présentation du joueur, à laquelle notre invité ne répondra pas, puisque, paix à son âme, la première partie de l'interview s'est perdue dans les méandres de Skype. Sur ce, bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, Pablo Andújar Alba, t'es né le 23 janvier 86 à Cuenca, en Espagne, entre Madrid et Valence. Tu fais 1,80 pour 80 kilos, t'as une sœur et un frère. Tu parles quatre langues, l'espagnol bien sûr, mais aussi l'anglais, le français et l'italien. Tu commences le tennis à 6 ans, mais à cette époque, tu joues aussi au foot, au club de Levante, club que tu supportes toujours aujourd'hui. T'es professionnel de tennis depuis 2003 et intègres le top 100 après 5 saisons, en 2008. Tu bats notamment Moya cette année-là à Bucarest, alors que t'es 88e. A priori, la surface sur laquelle tu joues le mieux est la terre, puisque tu as gagné 4 tournois dessus à Casablanca en 2011 et 2012, Gstaad en 2014 et Marrakech en 2018, et donc tu viens de battre fraîchement Roger à Genève, toujours sur terre. T'es wildcard au Master 1000 de Madrid en 2013, et bats dans l'ordre Cilic, Isner et Nishikori avant de perdre contre Nadal. 2013 est l'année de ton meilleur classement à ce jour, 32e. Il est indiqué sur ta fiche ATP que t'es admiratif de Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal et David Ferrer, que ton coup fort est le revers et ton tournoi préféré Barcelone. T'es marié depuis 2016 et t'as deux jeunes garçons. Tu t'entraînes à Valence. T'as hélas été opéré 3 fois du coude droit entre mars et novembre 2016, puis avril 2017 par 3 docteurs différents. T'as du coup été éloigné 8 mois du circuit en 2017 et perdu ton classement ATP. Tu as effectué un retour fracassant en 2018 en gagnant Marrakech, alors classé 355e mondial. Deuxième meilleure performance derrière Hewitt en 98, qui avait gagné Adelaide en étant 555e. Tu as joué 19 finales de tournoi Challenger pour un ratio positif de 11 titres et 8 finales perdues. Tu as été numéro 5 mondial junior en 2004 et tu as gagné Roland-Garros junior en double avec Granollers, ton meilleur pote sur le circuit. Voilà, c'est tout pour cette introduction sur Pablo Andújar et j'enchaîne immédiatement avec la deuxième partie de notre interview.
Ta plus grosse défaite, désolé, mais on en était là.
Je me souviens une fois, je jouais contre Djokovic à Indian Wells. Ouais. J'étais mené 6-0, 1-0 et je crois que balle de break, donc 2-0 et son service. Et là, Et j'ai gagné ces jeux et tout le monde a commencé, parce que c'était central, à crier, tout le monde.
Le score final ?
J'ai gagné le 7. J'ai gagné 7-6 et après j'ai perdu 6-2, je crois. L'année d'après avoir gagné 2012 Casablanca, je pense que je perds un quart ou en deuxième tour. Deuxième tour contre Pablo Carreño,
ouais.
qui n'était pas, tu vois, il n'était pas le Pablo Carreño de maintenant.
Ouais.
Donc, ce n'était pas bien pour moi de perdre et j'ai perdu, donc j'ai perdu tous les points. J'ai perdu contre un jeune espagnol. Bon, j'avais beaucoup de pression sur ces tournois-là et voilà.
Quel est ton coup le plus faible, le coup que tu peux améliorer le plus?
Je crois que mon service.
Et tu le travailles beaucoup?
Depuis 2015, moins, parce que...
Le coude, ouais.
Le coude. Donc, je sers, bien sûr, un peu différent. On a essayé de changer un peu la technique et tu vois, je kickais beaucoup, je servais beaucoup de kicks et là, je sers moins kick et plus slice ou à plat.
Ouais.
Mais c'est vrai que je ne sers pas, ce n'est pas mon super, le super coup. Non.
Est-ce que tu as un préparateur mental?
Non.
Jamais?
J'ai essayé plusieurs fois.
Ouais.
Ça n'a pas allé.
C'est quoi ta manière à toi de te préparer mentalement?
Moi, je pense que c'est plutôt l'expérience et les choses que tu penses. Et bien sûr, le travail de ton préparateur physique ou ton préparateur comme coach qui peut t'aider à un moment donné. Et bien sûr, toi-même, avec l'expérience, de prendre les choses comme tu crois pour améliorer. Tu vois? C'est là où je pense que c'est les trucs mentaux.
Est-ce que tu pratiques la visualisation et la méditation ou pas du tout?
La visualisation, oui. La méditation, je non.
Comment tu fais la visualisation?
Mais la nuit d'avant, parfois. Surtout, j'ai travaillé avant, quand j'avais mon coude, le truc de mon coude. Je travaillais parce qu'à chaque fois que je me voyais en servant, en faisant de service, j'avais mal, même si je ne servais pas. Donc même en pensant à ça, j'avais mal au coude. Je ne voulais pas taper dans ma tête.
Ouais.
Donc ça, je travaillais avec la visualisation d'essayer de voir mon service sans aucune mal et d'être libre. Après, et surtout, je travaille la visualisation pour améliorer un coup, mais pas pour voir comment joue l'autre ou la situation du match, non. J'essayais, ça n'a pas changé, je dis pourquoi.
D'accord. Quelle est ta manière de t'entraîner plus que les autres ou différemment? Comment tu penses que... Quelle est ta force au niveau de l'entraînement?
Moi, je pense que je travaille comme tous, vraiment. Je ne pense pas que je fais la différence avec les autres joueurs. Quand je m'entraîne ici, quand je m'entraîne avec les jeunes d'ici à Valence, ils s'entraînent très fort. Il faut voir s'ils s'entraînent tous les jours comme ça. Si tu arrives à t'entraîner bien, à t'entraîner fort pendant tous les jours, après, tu vas avoir des résultats, tu vois, des progrès, ouais. Exactement. Donc, c'est plus la régularité que ouais. Pas la manière de m'entraîner, je crois.
Tu as déjà fait des semaines d'entraînement à Manacor avec Nadal?
Non, jamais. Je crois que lui, il s'entraîne très fort aussi, tu vois. Mais c'est là où tu vois la grosse différence. Il s'entraîne à chaque fois qu'il se met dans son terrain, il s'entraîne à fond,
ouais.
Tous les jours.
Quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné? El numéro uno.
Peut-être le meilleur a été de me dire que c'était moi qui jouais et pas lui. Il m'a donné la liberté, voilà,
ouais.
pour jouer. Donc, prends toi-même les décisions. Moi, j'étais un joueur où je regardais trop parfois le coach parce que j'avais un peu de je ne sais pas comment dire, mais j'étais avec un peu de peur à prendre, ouais, des décisions pendant le jeu.
D'accord.
Donc, je regardais. Et ça changeait avec un coach qui m'a dit, bah, toi, tu peux décider, tu prends tes décisions. Toi, tu es fort, tu es très fort quand même, donc il faut y aller. Donc,
te faire confiance.
Ouais.
Et si toi, tu devais donner un conseil un jeune joueur grâce à ton expérience, ça serait lequel?
D'abord, moi, je ne suis pas quelqu'un qui doit donner des conseils parce que j'aime pas beaucoup. Moi, je dirais de tous les choses, de tous les entraînements, tous les matchs, tous les tournois où il va faire, qu'il va faire, il faut être 100% sûr de que ça c'est la décision correcte. Donc, il faut y aller jusqu'au bout, tu vois.
Ouais.
Ça surtout. Parce que parfois, ouais. Non, je suis pas sûr, j'ai pas envie d'entraîner ou j'ai pas envie d'aller à ces tournois, mais ne vais pas.
Ouais.
Il faut être sûr, 100%. Parfois, quand on est jeune, on joue, on fait des choses parce qu'on ne le pense pas.
Ouais.
Mais il faut les penser parfois. Et c'est mieux parfois, c'est beaucoup mieux parfois de ne pas s'entraîner un jour
ouais. ou
deux jours après, être à fond. Ça va compter beaucoup plus.
La plus grande qualité d'un joueur de tennis professionnel?
Je crois que la force mentale qu'il a depuis qu'il commence à jouer tennis, que tous les mauvais moments, c'est lui, seulement lui, qui doit monter. Donc, la force mentale pour revenir.
Un traditionnel rappel, parce qu'on a tendance à oublier, mettez-nous un like de suite, ça sera fait, ça nous aide à faire connaître le contenu qu'on publie. Mettez aussi un commentaire, peu importe la plateforme où vous êtes, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barrault. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché la bagatelle de 12 top 100. Et ça, ça fait plaisir.
Aujourd'hui, quel est ton plus grand rêve sur le circuit?
C'est rester le plus de temps jusqu'à le jour où je dis je ne veux plus jouer. Tu vois? Donc, pouvoir... Le rêve, c'est peut-être décider
ouais.
le moment d'arrêter. Et pas le tennis qui m'arrête, tu vois, moi.
Et ton objectif de résultat?
Vraiment, okay. j'ai pas après ma blessure, je prends les choses d'une autre manière.
Ouais.
Je me pose pas d'objectif, non.
Qui est ton meilleur ami sur le circuit?
Marcel Henriers, peut-être.
Quelle est la blague la plus folle que tu as vécu dans un vestiaire?
Une fois, ils m'ont raconté, pas moi, ils m'ont raconté que il y avait un joueur qui n'était pas aimé. Je ne vais pas dire les noms, mais il y avait un joueur qui n'était pas aimé et ils l'ont laissé pendant qu'il était au restaurant.
Ah, au restaurant.
Ils l'ont laissé à son hôtel, à sa chambre. Ils ont chié.
Oh non.
Et dans le lit en bas, ils l'ont laissé la merde. Et tous les jours, il était avec son copain, pas avec son coach, mais avec son copain. Mais il le disait à l'autre, putain, qu'est-ce que t'as mangé?
Ah, c'est horrible.
Je sais pas, c'est une histoire. Moi, j'étais pas là-bas. Hein. J'ai entendu.
Est-ce que il y a, tu sais ce que c'est une bête noire?
Si, c'est une bestia negra. Si.
Est-ce que t'as une bête noire?
Moi?
Ouais.
Quand on dit bête noire, il faut bien sûr penser à quelqu'un de ton niveau, parce que moi, je peux te
oui,
dire.
Oui, bien sûr.
Nadal. Mais ouais. Nadal, c'est la bête noire de tout le monde, tu vois?
Ouais, mais si tu l'as joué 15 fois et qu'il y a 15 défaites, non. Ça peut être ta bête noire.
J'ai joué 4 fois et ouais. J'ai perdu tous les 4.
D'accord. Et toi, t'es la bête noire de qui?
De personne, malheureusement.
Quel est le joueur qui t'inspire le plus?
Je pense que maintenant, Nadal.
Et comment tu t'en inspires? Comment tu essayes de t'en servir dans ton entraînement, dans ta préparation?
Parce que parfois, je vois que le tennis, tu as des balles, tu as des points, le match peut changer complètement. Ouais. Tu vois? Et parfois, tu vois que quand tu regardes un match à la télé, tu vois que c'est là, c'est ces moments. Et Nadal, parfois, il perd beaucoup de points où tu dis, mais là, le match était fini, c'était pour lui. Ouais. Et par contre, l'autre, il revient, et il est là, il est là, il est là, mais il gagne toujours. Il essaye de mentalement pas descendre, de savoir que c'était le moment, il n'a pas pris, tu vois, il gagne encore. Donc, la force mentale qu'il a, et après, comment il m'inspire aussi, parce qu'il essaye toujours, quand il joue contre quelqu'un qui lui fait mal, comme Djokovic, par exemple, c'est vrai que maintenant, ça n'a pas allé beaucoup, mais il a changé son jeu. Il a toujours essayé de changer son jeu, de faire des choses différentes pour arriver à le battre. À quelqu'un qui est plus fort que lui, ou que tape plus fort, ou qui sert plus fort. Et il arrive et il les bat. Je crois que c'est là.
Bien vu. Quel est le joueur le plus drôle du circuit?
Benoît Paire. Drôle, ça veut dire... Moi, je l'aime bien, tu vois.
À Benoît. Ouais. Drôle, c'est marrant, qui te fait rire, tu vois.
Ouais, il me fait rire, ouais. Benoît, Fognini.
Ouais.
Je les connais. Tous les deux, je les aime très bien. Mais c'est vrai que quand je les aime très bien, très bien. Vraiment. Et ils sont super bons mecs, les deux.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand ils jouent, parfois, son adversaire, t'aimes pas bien les choses qu'ils font.
Ouais.
Tu vois qu'ils font des choses qui sont pas bien. Mais ils sont super. Et c'est vrai qu'aussi, le voir jouer parfois, ils sont beaucoup de talent, tous les deux.
Et la joueuse, la plus drôle?
Je connais pas beaucoup les circuits féminins, je ne sais pas. Ok,
ancien joueur et ancienne joueuse préférée?
Ferrero, joueuse peut-être Steffi Graf.
Est-ce que tu as des anecdotes avec le Big 3, Federer, Nadal, Djokovic, des petites aventures à raconter avec eux?
Bien sûr, je dois avoir.
Ouais.
Mais j'ai pas de mémoire. J'ai une très bonne relation avec Nadal et Djokovic parce qu'ils sont Nadal même âge et Djokovic en a moins, donc on se connaît beaucoup depuis longtemps. Mais je me souviens pas, peut-être dans deux jours. Mais je me souviens.
Tu m'en vois.
Je me souviens pas de. Là, je t'ai raconté hier l'histoire de Djokovic.
Follow the leader.
Quand je jouais, regarde, la première fois je jouais. J'ai joué Djokovic quand j'avais 15 ans.
Ouais.
Quand j'avais 16 ans et lui, il avait 15 ans. Donc, le premier match, on a joué en Belgique, un tournoi, moins 16. J'ai perdu en demi contre lui. Donc, on jouait le troisième set et il a commencé à... Il ne pouvait pas respirer, tu vois?
Ouais.
Troisième. Parce qu'il a eu des problèmes...
Au sinus.
Exactement. Il ne pouvait pas. Donc, j'ai perdu 6-4. Et moi, dans ma tête, je disais, mais il m'a bien niqué. Ouais, parce que c'était pas bien. On a arrêté 15 ouais. minutes, on jouait pas. La semaine d'après, juste après, je le jouais, je l'ai battu 7-6 au troisième.
Wow.
Avec 8 ou 9 balles de match que j'ai gagné. Et après là, on a eu une très bonne relation. Quand j'ai gagné, il m'a fait une
accolade.
Un hack.
Ouais.
Et c'est là que je changeais la mentalité ou les pensements que j'avais sur lui.
Et Federer?
Je connais pas trop. Je n'ai jamais joué.
Jamais sparring d'entraînement?
Une fois, à Madrid. Sparring, moi j'étais junior. Et ouais. Je faisais le sparring et je me souviens de l'avoir chauffé et me dire, mais putain, j'ai tapé peut-être 15 balles. Il est monté, il servait deux services, ciao. Je me suis dit, putain, mais vraiment, je disais, mais on se chauffe comme ça, tu vois, je savais pas. Et c'est vrai que la manière qu'il s'échauffe et la manière que Rafa s'échauffe, rien à voir. Ouais. Rafa, il tape. Et Roger, il tape un peu, c'est bon, ciao. Et après, il joue super bien.
Est-ce que tu as des superstitions?
Non.
Aucune?
Non.
Quelle est ta plus grosse fiesta sur le circuit?
Depuis longtemps que je ne fais pas la fête, ça, il faut le dire. Depuis longtemps.
Ok.
Mais un tournoi où je mets très bien faire la fête, c'était Acapulco ou Barcelone aussi, ou Madrid. Je fais à Paris aussi, à Roland-Garros. Je fais à Buenos Aires.
Dans ta première partie de carrière, ça t'arrivait de sortir et de jouer le lendemain?
Non, je suis quelqu'un... Non, je suis pas un mec... Comme je n'ai pas les talents que autres joueurs ont, moi, je suis quelqu'un...
Sérieux?
Même maintenant, bien sûr, mais il y a 15 jours, 15 ans aussi. Je pense que je faisais plus la fête, je sortais plus parce qu'un mec de 20, 22, 24 ans, c'est normal. Mais seulement quand j'avais les temps pour le lendemain, je ne m'entraînais pas, je ne jouais pas ou je voyageais dans un autre tournoi, donc je pouvais faire la fête, mais seulement que, comme ça.
Tu as eu des sélections en Coupe Davis?
2.
Et quel est ton meilleur souvenir avec l'équipe nationale?
On a perdu les 2 fois. Et la deuxième, c'était super dur. Donc Robledo gagne le premier match, moi je gagne le deuxième. Donc on était 2-0, on jouait en Russie.
Tu gagnes contre qui?
Je bats Kachanov.
Ouais.
C'était un Kachanov jeune.
Ouais.
Et lui, il bat Rublev, 2-0. Et puis le lendemain, le double qui perd en 5-7. Et après, on perd 2-1. Tom, il perd contre Donskoy.
Ouais.
2-2. Et après, c'est moi contre Rublev.
Ah ouais.
Je perds. Et la première fois, la Coupe Davis, Bautista gagne, donc 1-0. On jouait au Brésil pour pas descendre en deuxième division. Et moi, je jouais Bellucci. Et j'ai eu balle de match.
Ah ouais, chaud.
Au quatrième set, balle de match. Et ouais, c'est dur. C'était dur. On a perdu. Donc, j'ai perdu en 5. Et le lendemain, le double, on a perdu 2-1. Et puis, Roberto a perdu contre Bellucci 3-1. Okay. Ça, si ça change, peut-être que je bats Bellucci. Et on sait jamais, mais bon. Ouais. Mais... Donc, ils ne sont pas des beaux souvenirs, mais au moins, je jouais. Et tu sais que, comme en France, c'est très compliqué d'être dans l'équipe.
Ouais.
Donc, moi, pas seulement j'ai été, sinon que j'ai joué. Donc, même si les souvenirs ne sont pas bons, mais
en France,
au moins, je gagnais un match.
En France, il y a une tradition pour la première sélection, ce qu'on appelle un bizutage. Tu sais, bizutage, c'est on te fait quelque chose d'un peu difficile pour la première fois.
Non,
est-ce que tu as eu ça en Espagne?
Non, mais je t'explique pourquoi. Parce que je crois qu'on était tous dans un moment des tensions. L'Espagne n'avait pas été en deuxième division depuis très longtemps. Et moi, ils m'ont appelé dernier moment, donc il y avait pas
l'ambiance.
L'ambiance pour faire des blagues. Ouais.
Ouais. Est-ce que tu joues au paddle?
Non, je jouais 3 fois dans ma vie.
T'aimes pas trop?
Les 3 fois que je jouais, j'ai pas aimé. Donc après pendant ma blessure, je pouvais, mais avec le coude, je pouvais pas se mâcher, donc.
Ouais.
Non.
Aujourd'hui, tu as gagné 5 508 869 $ de prize money. Qu'est-ce que tu penses de ce montant?
C'est pas la vérité.
Sur la fiche ATP après. Hein.
Ouais, c'est pas la vérité. Ce que je pense, c'est que c'est pas du tout la vérité. Voilà.
Parce que c'est avant impôt.
Parce que une part de cet argent. Tout les totals, c'est $1.
Ouais.
Donc d'abord, une grosse part de l'argent que j'ai gagné en dollars, j'ai gagné avec $1 très faible pour l'euro.
Ouais.
Donc déjà, je gagnais parfois 1 euro, 1,40 $. Après, ouais. Après, nous tennismen, on a des frais très très hauts.
Ouais.
On paye un coach, on paye un préparateur physique, on paye un kiné, on paye ses voyages, on paye aussi parfois des pourcentages de ce qu'on gagne pour les coachs.
Ouais.
Donc on fait que payer. Et en plus, bien sûr, c'est beaucoup d'argent, mais en plus, on a le pourcentage de chaque pays qui te prend le 20, le 15, le 30, le 40%. Plus la différence ou avec ton pays. Donc en Espagne, moi j'arrive à payer presque le 50%. En total, je peux te dire 65%.
Ah, c'est énorme, énorme.
Donc il te reste le 35%, on va dire, pour un pays comme Espagne.
Ouais.
On va dire pour un pays européen. Parce qu'en France, c'est la même chose. En Allemagne, la même chose. En Italie, la même chose. Ce n'est pas la même chose si tu habites en Andorre ou si tu habites en Suisse. Tu vois?
Ouais.
Mais si on habite dans des pays comme le nôtre, le 35%.
Tu n'as jamais voulu déménager en Andorre ou dans un paradis fiscal?
J'ai pensé, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui gagne beaucoup, beaucoup, autant. Pour faire ces changements. Et oui, peut-être, je fais des économies, bien sûr, mais je perds aussi la qualité de vie qu'on a ici. Ça.
Ouais.
Ici, en Espagne, à Valence, j'ai une qualité de vie que dans un autre pays, c'est très, très compliqué, je pense. Et aussi, d'avoir ma famille ici à côté à chaque fois que je reviens, ce n'est pas la même chose. Nous, qu'on voyage beaucoup, de revenir et n'avoir personne.
Une saison, ça te coûte environ combien?
Ça dépend, bien sûr, avec le pourcentage.
Ouais.
Mais 250 000, 200 000, 200 000, 200 000.
Ah oui, c'est 200. Énorme. C'est énorme.
Ouais, 200 000. Ouais, ben écoute, tu voyages en Australie, en Chine, Amérique du Sud, États-Unis, tout ça, ça coûte cher.
Ouais.
Aussi, parfois, il faut payer la chambre de ton coach. Si tu voyages avec ton kiné aussi, ça dépend, bien sûr. Ça va dépendre. Peut-être Djokovic ou Nadal te dit 1 million.
Ouais.
Moi, je te dis 200 000. Et un joueur qui fait des futurs te dit 50 000.
Le coach prend 20%, c'est ça, non?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Non. Ça dépend, mais pas moi, non. Pas
d'accord. Moi,
je lui donne le 10%.
D'accord.
De ce que je gagne. Ouais.
Tu te souviens de la première fois où tu as gagné ton premier gros chèque? Est-ce que tu as ressenti?
La première fois, gros chèque pour moi, donc ouais. La première fois que c'était un gros chèque pour moi, c'était 1100 euros que je gagnais à Elche dans son futur que j'ai gagné. Donc c'était 1100 et 400, donc 1500 ou 1700 ou un truc comme ça, je me souviens, parce que je suis allé au bureau parce que j'ai gagné le double et les simples.
Ah ouais, futur. Bien.
C'était la première fois où je voyais, putain, 1800 et 1700. J'ai pensé, putain, cette semaine, j'ai gagné argent.
Ouais.
J'ai pas perdu.
Énorme.
Ouais, je pensais ça, exactement. Je pensais, j'ai pas perdu argent cette semaine.
Et le plus gros craquage ou la plus grosse folie financière que tu as faite après avoir gagné un petit peu d'argent sur le circuit? quand tu as commencé à te sentir à l'aise, la fois où tu t'es dit « Allez, je me fais plaisir ».
Vraiment, je suis quelqu'un que j'aime bien donner ou donner les choses que j'ai, pas seulement le matériel, mais à mes amis, ma famille, tu vois. Donc, le faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça me fait plaisir à moi.
Ouais.
Donc, par exemple, le jour, le week-end de mon... Comment on dit quand tu vas te marier, tu fais la fête de...
Enterrement de vie de garçon.
Exactement. On a fait une super fête à Formentera.
Avec qui?
Avec mes anciens amis ici à Valence, ouais. De l'école, mais aussi Marcel Ranoyer, c'est venu, aussi quelqu'un du monde de tennis, mais surtout ami de l'école.
C'est magnifique, Formentera.
Magnifique, mais parfois trop de monde, pour moi,
ouais.
Mon avis.
C'est quoi pour toi la définition d'être riche?
Être riche au niveau matériel ou au niveau... Ça, c'est aussi...
Les deux.
Être riche au niveau spirituel, c'est, à mon avis, c'est pas avoir ego.
Ouais.
Être riche au niveau argent, pour moi, à mon avis, c'est pas penser à l'argent. C'est pas penser à l'argent.
Ne pas se poser la question.
C'est poser la question. Si tu vas dans un restaurant de toile Michelin, tu vas et tu manges et tu penses pas à ça.
Ouais.
T'es pas en train de manger et tu penses à l'argent que t'es. Exactement. Ouais.
Avec la next génération qui arrive, il y a des essais de format de jeu, tu sais, le chrono, les 25 secondes, le format de jeu qui va peut-être évoluer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et comment tu penses que le tennis va évoluer?
Je vais être très sincère. Je pense que ce sont des choses qui ne changent pas le tennis. Vraiment, les choses, pour moi, ça c'est mon avis, c'est Pablo Andújar et peut-être un autre joueur qui est même classement que moi, pense d'une autre manière. Mais je crois que le time clock, le 4 jeux, ouais, peut-être le 4 jeux, c'est bien pour le faire un peu plus d'émotion. Parce qu'on vit dans cette... on voit toujours beaucoup de choses et donc il faut que ça soit plus rapide qu'avant. Okay, ouais. Ça, c'est une chose. Mais vraiment, il faut aller voir si les règles du tennis, il faut peut-être les changer. Parce que quand on voit des joueurs qui servent à 240 à l'heure ou 230 à l'heure, on voit beaucoup. On ne voit pas, avant, on voyait Rodic, on voyait Ivanisevic, on voyait... Mais maintenant, Ljubicic. On voit beaucoup qui servent très, très fort. Ça, c'est une chose. Et ça, ce type de tennis, moi, je ne l'aime pas. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Il faut peut-être, les mecs, avant, il y a 20 ans, ils n'étaient pas hauts comme maintenant. Maintenant, le standard, c'est 1m90, facile. Peut-être à 92. Donc, peut-être, pourquoi pas monter un peu plus le filet. Pourquoi pas? Ou pourquoi pas mettre un seul service et pas deux? Parce que moi, quand je fais une faute de revers, je peux pas répéter. Et ça, je pense, avec ça, seulement deux choses. Changer un peu, monter un peu plus parce que avant, on était plus petit. Et deux, jouer avec 15 services. Comme ça, oui, peut-être beaucoup de joueurs vont être pas contents. Mais c'est une manière où je vois que pour le tennis fan, ça peut aider à avoir plus de balles, plus d'échanges que quand tu vois deux mecs qui font que servir. Et pas seulement que servir. Pas seulement que servir, parce que par exemple, je pense à Isner. Par exemple, ouais. Isner, c'est un mec que j'aime bien. Isner, il joue très bien du fond des terrains aussi. Mais on ne le voit pas parce qu'il sert aussi bien qu'on ne voit pas comment il joue du fond des terrains.
C'est vrai.
Parce que personne ne peut le retourner.
Ah, c'est hyper intéressant.
c'est intéressant, mais je ne crois pas qu'ils vont faire un changement aussi fort. Mais je crois que c'est une manière de, si le tennis descend, que apparemment le tennis, il est toujours le sport top de fin de mondial, mais si à un moment donné, ça change, peut-être, c'est un bon moment pour penser à les règles et pas seulement à le clock time, le 4 jeux, le coach on court, toutes les choses qu'ils font maintenant.
Au niveau nutrition, tu es plutôt tapas ou diététique d'athlète?
Non, tapas, bien sûr. Non. Et moi, je suis 100% pour tapas.
Ouais.
S'il y a une chose dans la vie que j'aime bien, c'est manger bien. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, je joue au tennis et je ne peux pas. Et aussi, je suis quelqu'un que grossit très facilement. Pas comme un fou, mais je dois faire attention.
C'est quoi tes habitudes de nutrition?
Par exemple, les matins, je prends un peu de pain avec l'huile d'olive et un peu de dinde. Et après, banane ou quelque chose de fruit,
ouais.
Café au lait. Et okay. Après, je mange vers 11h, je mange un peu de pain avec dinde aussi, ou bien fruits, ou bien barre diététique. Ou...
Ouais.
Après, je mange. Parfois, je mange poisson, parfois un peu de poulet et un peu de riz, surtout.
Ouais.
Pas beaucoup de pâtes, mais plus de riz.
Ok.
Oui, je mange cinq fois chaque jour, mais pas beaucoup, tu vois, petit.
Et le soir, léger?
Les soirs, un peu plus léger. Mais ouais. Il faut dire que maintenant, c'est pas comme ça.
Tu as 22 000 abonnés sur Instagram. Comment tu gères tes réseaux sociaux?
Maintenant, c'est quelqu'un qui va me gérer parce que moi, j'aime pas la. Je sais que ça fait part de mon travail, mais j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Je suis quelqu'un. J'aime ma famille et pas, tu vois, low profile. Ouais.
Donc, tu as un community manager.
Ouais, quelqu'un qui va me gérer ça. Et bien sûr, c'est lui qui va me demander de faire les vidéos, tout ça.
Ouais.
Et faire attention à quoi dire et tout ça. Mais okay. Oui, mais pas moi, parce que aussi, tu sais que les réseaux sociaux, il y a beaucoup. Quand tu as une défaite, tout le monde te dit. Tout le monde qui parie, tout le monde, ils m'ont dit ma famille, mes enfants, beaucoup ouais. Mauvaises choses. Ça fait part aussi de mon travail, tu vois.
Ouais.
Je l'accepte. Il y a du monde qui est comme ça. Pas la majorité, bien sûr, mais j'aime pas. J'aime pas parce que les réseaux sociaux, c'est aussi un peu pas la réalité.
Ouais.
Il montre pas la réalité. Il montre ce que tu aimes, que quelqu'un veut voir de toi. Tu
as déjà eu peur à cause des menaces, des choses comme ça sur ta...
Non, peur non, parce que quelqu'un... Je pense qu'il le crie parce que tu viens de perdre, non? Et le mec, il a perdu 50 euros et il te crie, t'es un fils de pute parce que t'as perdu et t'as même pas perdu, t'as voulu perdre. Donc toi, moi, j'ai gagné argent comme si c'était moi qui pariais. C'est les moments, je pense qu'après, j'espère qu'il pense, ah, j'étais un peu fou de ce que je fais, j'espère.
Si t'avais pas été joueur de tennis, t'aurais fait quoi?
Quelque chose du sport, quelque chose, parce que j'étais toujours quelqu'un, je jouais, comme je dis, un peu à football sala, un peu tennis, un peu basket, tu vois, donc quelque chose de tennis. Pas joueur professionnel, bien sûr, c'est très compliqué, mais peut-être prof d'une école de physique ou préparateur physique ou manager d'une école de tennis.
Tu réfléchis à ce que tu vas faire après ta carrière?
Je réfléchis. J'aimerais bien peut-être ouvrir, je ne sais pas si une académie, mais une manière plutôt, plus qu'une académie, peut-être une manière d'entraînement.
Ouais, une méthode.
Une méthode, ouais, une méthode d'entraînement. Je pense que nous, en Espagne, on a très bien travaillé.
Ouais.
Et je crois que le tennis espagnol, il est encore dans le top. Je pense qu'avec vous, et peut-être maintenant les Canadiennes et les Australiennes, mais on est 2, 3, 4 pays maximum qui un peu sont le meilleur au niveau tennis. Donc, la méthode qui a fait évoluer les joueurs, peut-être, ouais. Sinon, on verra. Je suis quelqu'un qui parle langue, qui... mais surtout, ce que j'aimerais bien, c'est... Je crois que je suis dans une position... Je serai dans une position de pouvoir faire ce que j'aimerais bien.
Ouais.
Et ça, ces libertés, c'est très important pour moi.
Commentateur ou dans les médias, pourquoi pas? Ouais. Comment tu as envie qu'on se souvienne de toi, Pablo? Quand on parle de Pablo Andújar, tu veux qu'on dise quoi?
J'aimerais bien que quelqu'un qui a été toujours gentle, qui a été toujours dans les terrains, quelqu'un qui n'a jamais fait des mauvaises choses, qui a été un exemple pour le jeune des comportements, et surtout ça, plus qu'au niveau si j'ai joué bien un coup droit ou un revers. Je crois qu'il y a plus... de joueurs qui peuvent faire la différence là, pas moi, mais peut-être au niveau comportement sur le terrain, comme exemple un peu pour les jeunes, je crois.
Comment vous vous êtes rapproché avec Lacoste?
Je pense, les anciens managers, agents que j'avais, avaient une bonne relation avec Lacoste.
Ouais.
Mais surtout, je crois que j'étais un des jeunes espagnols qui montait et je parlais français. Et donc, c'était facile.
D'accord.
Je crois, vraiment, je crois que c'était facile. Il voulait, et moi, c'était le rêve, pour moi, c'était une rêve d'être chez Lacoste.
Ouais.
Parce que moi, quand je voyais Correa, c'était un de mes idoles, il jouait Lacoste.
Bien sûr.
Et c'était comme la classe. On a dit toujours que Lacoste était la classe. Et moi, je croyais que je pouvais être, pourquoi pas, une bonne ambassadeur de la marque.
Clairement. Tu te souviens la toute première fois où tu as reçu les vêtements Lacoste?
Je crois que c'était pendant l'US Open, je crois.
Et tu as ressenti quoi?
Ouais, c'était très spécial. Je ne sais pas exactement, comme je t'ai dit, je n'ai pas de mémoire, mais comme un cadeau incroyable. Je disais, mais ça, c'est parfait pour moi, c'est fait pour moi, Lacoste est fait pour moi.
avant Lacoste, tu étais avec qui?
Avec les coqs sportifs.
Ah oui, tu me l'as dit hier, exact. Exact. Et aujourd'hui, Lacoste représente combien de tes gains financiers? C'est quoi, c'est 10? Enfin, l'image, tes contrats publicitaires représentent 10, 15, 20, 30%? Non?
Rien.
Ouais. Ah ouais?
Moi.
Et les raquettes, t'es avec qui?
J'ai pas de contrat de raquette.
Et tu joues avec quelle marque?
Je joue avec Prince.
Ouais.
Prince a eu un petit problème, un gros problème. Et moi, je joue avec une raquette un peu différente, qui la font plus.
D'accord.
Donc, je restais parce que c'était la raquette que j'aimais.
Ouais.
Et donc, au niveau de contrat, j'ai pas... Non.
D'accord.
Et bien sûr, hein, Lacoste... pendant ma carrière, j'ai eu des autres propositions, mais j'ai toujours resté fidèle à la marque.
Ouais.
Pas seulement parce que j'aime la marque, mais aussi les gens qui travaillent pour la marque, ils sont top, ils m'ont aidé toujours, ils m'ont donné, même quand j'étais blessé, ils m'envoyaient des vêtements. J'ai toujours pensé que c'était la marque que je voulais rester jusqu'à la fin de ma carrière et ça va être comme ça.
Et tu as des vêtements de ville aussi, tu as des costumes, tu as tout.
Ouais, nous, je ne sais pas si je dois dire ça, peut-être, je ne vois pas où c'est les problèmes, mais les joueurs, on a un petit montant
Ouais.
Les joueurs Lacoste ont un petit montant pour aller dans un magasin à Paris et pouvoir prendre des vêtements costumes.
Trop bien, c'est génial.
Ouais.
C'est génial. À quel point est-ce que tu vis pour le tennis ?
Maintenant, pourcentage ?
À quel point est-ce que tu es investi pour le tennis ? À quel point est-ce que le tennis
fait partie de ta vie ? 70%.
D'accord. Depuis que
70% parce que bien sûr, 70% ça veut dire 100% quand je suis dehors, 100% quand je suis dans les terrains aussi.
Ouais.
Dans mes entraînements, mais 0% quand je suis avec mes enfants. Voilà, c'est pour ça que ça fait, je peux te dire 70% parce que je suis pas toujours avec le tennis, mais quand je suis, je suis à fond bien sûr.
Comment est-ce que tu fais pour rester fit physiquement avec le confinement ?
J'ai un vélo et j'ai des bandes élastiques. Mon préparateur physique m'envoie le travail et on a une petite terrasse en bas.
Tous les jours, tu fais combien de temps ?
1 heure, 30 minutes et 30 minutes. Donc 30 minutes de vélo, 30 minutes d'exercice.
Ok, très bien. Ouais.
Comme ça, je reste bien. Je ne veux pas travailler trop parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va aller. Et,
ouais.
Et je sais ce que c'est faire une semaine, une autre semaine, une autre semaine à fond. Ça arrive un moment où tu descends un peu.
D'accord.
Et comme on ne sait pas l'objectif, lequel il est, parce qu'on ne sait pas si on va jouer à Wimbledon, si la session va être annulée, qu'est-ce qu'on va faire ? Je préfère aller ici, on dit pourquoi, pourquoi.
Alors, j'ai quelques questions pour terminer, okay. Un petit peu au-delà du tennis. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour être un meilleur homme ?
Essayer de voir mes fautes, mes erreurs et améliorer. C'est l'unique chose. La question, c'est la réponse. Je suis désolé, mais c'est comme ça.
C'est ta femme qui te dit tes erreurs ?
Ah oui, bien sûr.
Et ouais.
Ça, c'est toujours comme ça, je pense. Dans toutes les familles. Si quelqu'un m'écoute dire que ce n'est pas ma femme, il sait que j'ai menti.
Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée ?
Voir que j'étais avec mes petits et que je les fais sourire, les deux.
Quel est le plat que tu cuisines le mieux ?
Je ne cuisine pas.
Est-ce que tu as un talent caché ? Un savoir-faire particulier ? Instrument de musique ? Bricoler
Je suis tennisman.
D'accord, très bien.
Que la raquette et la balle. Et pas très bien. C'est que je fais bien. J'aimerais bien. Ils sont trop petits, mais moi, aller pêcher avec les petits. Ça, c'est une chose que je faisais avec mon papa. Et que j'aimerais faire avec les petits. Ça, je fais mieux que ma femme.
Et jouer au tennis avec tes enfants, ça te fera plaisir ou...
Oui, bien sûr. Pourquoi pas, s'il veut, bien sûr.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais plus jeune et que tu es devenu quelqu'un de célèbre ?
Célèbre. Je ne suis pas très célèbre, hein, moi.
En Espagne, les gens te reconnaissent quand même.
Non. Parfois oui, parfois non.
Ouais.
Parfois, il sait plus le nom, mais il voit pas la tête.
Donc, tu es tranquille.
Ouais, très tranquille. Mais bon, si que quand tu es jeune et que tu penses que tu es célèbre, tu fais un peu comme ça.
Ouais.
Ça, il faut le dire, ouais.
Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie ?
Non.
Tu lis pas beaucoup ?
Oui, je lis, mais il n'y a pas un livre. Non.
D'accord.
Je crois que les choses qui m'ont marqué la vie, c'est mes parents, mon frère, ma sœur, ma femme, les naissances de mes enfants, tu vois, plutôt les expériences que j'ai dans ma vie avec mes amis, avec mon tennis, tout ça,
ouais.
Mais pas un livre, je crois pas.
Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien ?
Une citation ? Non.
Ouais, non ?
Non.
Merci,
Je suis pas de... Non, une citation, ça veut dire « work hard for the future », un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Non, non. Moi, je suis pas. Moi, j'aime pas. J'aime pas ce type de choses.
Ok.
Parce que les expériences dans la vie, c'est beaucoup plus. Ce sont beaucoup plus compliquées qu'une citation.
Est-ce que tu dirais au petit Pablo qui avait 10 ans de vivre ses expériences dans la vie comme meilleur enseignement? Ou qu'est-ce que tu lui dirais justement pour se faire confiance et le réconforter en lui disant que ça va bien se passer?
S'il veut jouer au tennis ou non?
Peu importe, s'il veut réussir sa vie.
Qu'il faut qu'il pense beaucoup les choses, qu'il réfléchit beaucoup les choses, et s'il est sûr de prendre une décision jusqu'au bout. Je pense que c'est la chose que je peux. Et toujours de faire toujours les biens. Toujours ouais. Bien. Pas faire mauvaises choses. Toujours bien. Toujours bien pour lui, pour ses proches et pour tout le monde.
Pourquoi avoir accepté l'interview, Pablo?
Parce que vous êtes peut-être le premier qui m'a proposé un truc pareil.
Ah, cool.
J'ai jamais fait un truc comme ça.
Ah bah trop bien, vraiment. Génial, merci beaucoup, ouais. Vraiment. Merci non, Pablo d'avoir pris le temps, merci d'avoir parlé français.
C'est un plaisir.
Et merci de m'avoir présenté à tes enfants, c'est super sympa.
Merci.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pablo?
Santé pour tout, pour vous aussi, et surtout maintenant dans ces moments, santé pour tout le monde qui nous suive, qui vous suive. Souhaiter aussi de revenir dans les terrains et vous aussi qui travaillez dans le monde du tennis,
ouais.
Aussi pouvoir faire les presses, non?
Ouais, les articles. Ouais.
Les articles où tu dis que j'ai gagné un match.
C'est bon ça. Si quelqu'un qui te suit, un fan, veut te proposer d'ouvrir une académie ou un projet, comment est-ce qu'il peut te contacter?
Ok.
Tu réponds sur Instagram? Tu réponds souvent?
Moi, je ne vois pas l'Instagram. Ouais, c'est ouais. Ma femme, parfois, qui voit aussi.
OK. Donc,
s'il y a quelque chose qui est intéressant,
ouais.
Bien sûr, elle me dit toujours les choses qu'elle pense que c'est intéressant. Parce que moi, vraiment, je déteste les réseaux sociaux. Ça, je les déteste. Parce que tout le monde va contre l'autre. En Twitter, tout le monde contre l'autre. Après, Instagram, il dit qu'il est dans son bateau à Ibiza, mais après, tu sais qu'il ne peut pas payer la lumière. Tu vois? Ouais. Ça, je le déteste. Mais qu'est-ce que je te disais? Mais oui, bien sûr, si quelqu'un voulait me proposer n'importe quoi, bien sûr, pas Instagram. Ou Twitter, je suis Twitter.
Ok, très bien.
C'est moi.
Est-ce que, dernière chose, Pablo, est-ce que tu pourrais nous aider à avoir Alex Correggia sur le podcast?
Bien sûr.
Ah ouais?
Il parle français, non?
Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu veux bien lui en parler et après tu me tiens au courant?
Ouais, je lui écris un petit message.
Trop bien.
Je lui dis après, s'il dit non, c'est pas ma faute. Hein.
Exactement. Merci beaucoup, Pablo. Merci.
Pour rien,
merci.
Maxime.
À la prochaine.
Un plaisir.
Allez.
Avec plaisir.
Ciao, ciao.
Ciao, Maxime.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Pablo. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, venez nous le dire en commentaire de suite. Tant que c'est chaud, ça nous motive et ça nous aide. C'est tout bénef. Je vous le dis chaque semaine, mais la survie de ce podcast en dépend. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts parce que c'est la plateforme où tout se passe. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube et surtout continuez, mais faites-le aussi sur cette appli parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des invités de renom et de vous régaler. Un grand merci à Aska qui nous dit un podcast incontournable. Depuis que j'ai découvert cette chaîne, je peux plus m'en passer. Des épisodes préparés aux petits oignons, des vrais passionnés avec des invités qui ont de superbes histoires à raconter. Et des questions toujours bien amenées. Bref, si t'aimes le tennis, impossible de tourner les talons. C'est ça qui est bon, un grand merci Aska. Une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche à oreille.
envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur cellulaire. Avec un peu de chance, coincés dans un ascenseur ou une télécabine, ils se diront qu'ils ont un peu de temps devant eux et prendront le temps de découvrir chaque épisode. Pense aussi à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours, grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabrice Barraud. C'est le premier lien en description, et si tu veux arrêter de mouiller en match, ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100, c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien, lui aussi dans la description, il nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci à Grégory qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee et ça fait chaud au cœur. Ce podcast, c'est énormément de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode. Et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Et donc, un grand merci également aux tipeurs récurrents. Si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout les autres, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les légendes, merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.